marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Bon, est-ce qu'il y a une Nantes touch?
Une Nantes touch?
La touche nantaise.
Rock, une histoire nantaise.
La touche nantaise, moi je dirais, c'est que ça dure depuis très longtemps, 20-25 ans, ça décline pas. Tous les ans, il y a un nouvel artiste qui émerge dans un style nouveau, avec plein de créativité. Et ça, c'est la touche nantaise. C'est qu'il y a un vivier énorme et qu'il se passe toujours quelque chose. Et en plus, on s'entend tous très bien. On n'est pas tous amis, évidemment, c'est pas possible. Mais il y a un respect mutuel, quel que soit le style.
On peut faire une histoire du rock qui, tour à tour, jouerait sur les exclusions, les intégrations. À tel moment, tel courant en sortirait, à tel autre, il y retrouverait une place. Ce serait une histoire esthétique. On peut faire une histoire du rock qui serait d'abord sociale. C'est d'ailleurs avec cette intention que le rock a mis un pied, mais oui, dans la porte de l'université qui lui est longtemps restée fermée. Mais il y a aussi un biais bon enfant qui est tout simplement de localiser l'histoire du rock. La Bretagne est pour cela un terrain de choix. Brest, c'est la ville de France la plus proche des États-Unis. Saint-Malo s'approvisionnait déjà en Angleterre au temps où Pierre Bouteiller, adolescent, y écoutait du jazz. Rennes a été le fief de Marquis de Sade. À la campagne, la Mèche Bleue a brûlé discrètement dans un coin reculé des Côtes d'Armor. Chacun de ces lieux, chacune de ces scènes, même celle de Rennes, a eu une histoire en dents de scie. Nantes, en revanche, s'enorgueillit d'une durée qui lui serait propre. L'histoire du rock à Nantes, c'est une affaire de sédimentation. Il ne s'agit pas de croire que tout le monde il est copain, ainsi que l'indiquait il y a un instant Manu, mais un écosystème s'est constitué depuis longtemps où chaque musicien peut espérer trouver assez sa place dans une histoire longue. Son complément dans un dispositif avec des procédures d'accompagnement, des lieux de toute taille où se produire, des structures d'enregistrement, et un échelonnage formidable. L'histoire du rock à Nantes, c'est enfin une série d'adoptions. La ville a longtemps fait fonction de pompe aspirante pour des ruraux qui y ont été labellisés citadins. Et ceux qui l'ont quitté ne sont pas gênés d'y être encore identifiés, qu'on pense à Dominique A. S'il est permis de citer Julien Gracq dans une émission sur le rock, on dira qu'en la matière, Nantes est une ville de liberté grande.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Sur France Inter.
On entendait dans l'exergue Manu, et voici Lolo. Pardon, monsieur le commissaire, il faut dire. Monsieur le commissaire maintenant, Laurent Charliot.
Oui, monsieur le commissaire, c'est un nouveau grade pour moi, oui. Bon, oui, parce on peut m'appeler Lolo aussi. Ouais.
Parce que l'université renacle devant l'entrée du rock. Le château des Ducs de Bretagne, le grand musée de Nantes, vous a confié, ainsi qu'à quelques camarades, une exposition qui va durer un an et demi.
Le rock est rentré au château par la grande porte, par le pont-levis même.
Le rock, une histoire nantaise. Vous avez commencé, vous, dans les années 80?
Oui.
On vous appelait Lolo?
Voilà, je jouais dans un groupe de New Wave.
Mais avant, il y a de grands ancêtres que Franck Olivard est allé rencontrer. Dans les années 70, il animait un magasin de disques. Et dès avant, il avait l'œil aux aguets. Il s'appelle Noël Terrones.
Bon, je pense que le rock, il a commencé ici en 61. Ça a commencé avec des jeunes qui sont groupés, qui ont joué sur des guitares sèches, comme on l'appelait à l'époque, parce que on n'avait pas encore le nom de guitare folk, qu'on appelait des guitares sèches ou des guitares espagnoles. Et on mettait un micro qu'on avait récupéré à droite et à gauche. Et on se branchait comme ça sur des postes radio, parce qu'on n'avait pas d'ampli. Donc en 61, moi j'ai commencé, j'avais 13 ans, et avec des potes voilà, de lycée, on a commencé à jouer ensemble. 62, ça a été plus sérieux, parce qu'on a commencé à avoir des amplis, les amplis français de la marque Garen ou Hervé, qui ont apparu à Nantes dans les boutiques, enfin au compte-gouttes. On les louait, et on jouait ensemble. Du coup, il y a eu beaucoup de groupes qui se sont formés, qui ont pris des noms, parce qu'on n'avait pas de noms quand on jouait dans nos chambres. Hein, on a commencé à prendre des noms comme les autres. Alors, on s'appelait les Aiglons, les Rapaces, les Brigadiers, enfin, tous les noms qui étaient à la mode à l'époque. Hein. Souvent des noms français, d'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on n'était pas encore touchés par les Anglais à fond.
on ne se préoccupait pas des groupes anglais, de leur nom en tout cas, mais pas non plus des groupes français qui auraient pu porter le même nom. Je crois que Robert Rue faisait partie d'un groupe qui s'appelait ailleurs en France Les Rapaces. Alors Les Rapaces, c'est important ça dans le parcours à Nantes.
Oui, c'est important parce que c'est la première fois qu'on voit un groupe sur scène à Nantes, c'est au Salon Mauduit précisément, et où les Rapaces vont jouer.
Qu'est-ce que c'est le Salon Mauduit?
Alors les Salons Mauduits, il faut imaginer les Salons Mauduits, c'est une histoire formidable parce que c'est un lieu où la bourgeoisie nantaise aime à se retrouver le dimanche pour le repas du midi. Alors il faut imaginer toute la bourgeoisie nantaise autour de tables blanches avec des nappes, des beaux verres, etc. Et ils viennent une fois par an au grand concours d'accordéon. C'est le 18e concours d'accordéon, on est en 62. Et là, ce jour-là, l'organisateur qui est un magasin d'instruments de musique de Nantes, Simon Musique, a décidé de mettre en tout petit sur l'affiche grand concours d'accordéon et de guitare. Et à la fin, il y a des guitares qui se produisent, et dont les Rapaces. Et en fait, je pense que ça a dû être exactement comme dans Retour vers le futur, c'est-à-dire que toute la bourgeoisie nantaise s'est arrêtée à regarder ça. Et le lendemain, dans le journal, il y avait des articles qui disaient des sales jeunes, ils étaient mal habillés, ils étaient sales, ils faisaient des crings, des crongs, des grucs.
Il y a un groupe dont je voulais vous parler, Tequila. Oui. Avec un endroit déjà, alors ça c'est une première pièce du dispositif, un petit peu spécifique, qui s'appelle le Globe.
Alors là on fait un grand bond, on est à la fin des années 70, et le Globe c'est au Fac de Nantes, et il y a une association qui se crée pour mettre en avant les rockers nantais, les groupes nantais qui commencent à fleurir, dont Tequila, et on va pouvoir aller voir des concerts à prix très modéré au Globe, et il commence à y avoir les premiers festivals de rock nantais. Je pense que c'est à cette époque-là où on commence à parler de ce terme rock nantais qui est devenu aujourd'hui presque un nom, un label.
Et le Floride, c'est dès cette époque?
Ah, le Floride, c'est un tout petit poil plus tard. Là, le Floride, ça doit être toute fin des années 70. On doit être 79 de mémoire. Et c'est un endroit où on a appris la musique. C'était pas une discothèque, c'est un club rock. On n'y allait pas pour danser. On allait pour écouter de la musique forte. Et puis, on savait qu'il y avait toujours les nouveautés du moment.
Alors, Tequila, interrogé, on ne sait par qui, parce que les archives du rock ne sont pas toujours très bien tenues. Mais ensuite, Tequila joue dans une émission d'Albert Chouanet. Albert Chouanet
qui a fait la première émission rock régionale sur FR3 à l'époque, qui s'appelait Tempo.
Ce qu'il y a d'intéressant dans Tequila, c'est tout ce qui entoure ce phénomène, c'est-à-dire le fait qu'un groupe ait pu démarrer ainsi dans une ville comme Nantes, dans laquelle il n'y avait aucune structure, pas d'organisation de concert. Bon, c'est le Globe qui a fait ça, c'est important. Et c'est une organisation qui a fait tourner uniquement des groupes locaux, et Tequila est né en l'espace d'un an et demi. Ils ont fait 2-3 concerts et... Il s'est avéré que le verdict du public correspondait avec les critères des maisons de disques. Et c'est l'un des paradoxes de Tequila, justement, c'est le fait de produire un rock qui prend ses racines à la campagne. Ce sont des gens qui habitent, c'est vrai, à une dizaine de kilomètres de Nantes et qui viennent à la ville, à la limite, uniquement pour faire des concerts. Donc ils ne sont pas du tout dans le monde assez petit, assez étroit, assez angoissé des musiciens. Et ils produisent une musique sans complexe. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, on se fout royalement de la ville, on arrive sur scène et on joue à fond.
Où est Corinne? Vous connaissez très bien le chanteur de Tequila.
Oui, Philippe Ménard, qui joue toujours et qui fait son one-man band à travers l'Europe. Il joue. C'est un très très grand joueur de guitare, un gaucher, de blues.
Et vous ne chantez plus, parce que vous avez commencé à chanter à cette époque-là.
Ouais, juste après, ouais, effectivement. Ouais, moi, je commence ma petite carrière de musicien en 81. En 81, je joue avec Manu, le chanteur d'Elmer Footbeat. À l'époque, on est dans le même groupe. Et puis après, je vais former effectivement Inavox, qui est un groupe de New Wave.
Il y avait des disques déjà qui sortaient assez nombreux.
Les premiers disques à Nantes, alors à part les Rapaces qui l'ont sorti pour leur entourage, ils en ont pressé 15 dans un studio. Mais après, il faut attendre 71 pour avoir un vrai premier disque qui sort. Et après, il faut attendre Tequila. Donc, au départ, les premiers disques ont espacé de 4-5 ans.
Alors, Nantes est une scène diverse, parce que c'est à ce moment-là que commence Trianne.
Oui, 71, Trianne commence. Il va faire un carton tout de suite.
Ce qui pose la question du rapport du Celtic et de l'électrique. Alors, voici le témoignage de Fakir.
Voilà.
Et alors, Fakir, c'est
Laurent Grippet, le clavier du groupe EV.
Il y avait eu toute la tradition des Stivel, des Trian, qui eux ont commencé par faire du folk. Et nous, on est arrivés, on a fait du rock'n'roll en breton. Donc toute la jeune génération des années 90 qui avait 14, 15, 16, 18, se sont vraiment identifiés. Il y avait déjà pas mal de jeunes qui apprenaient le breton et vraiment se sont identifiés parce que chez eux, ils entendaient quasiment que soit des groupes de fesno de musique traditionnelle, soit effectivement du Stivel, du Trian, qui ont totalement électrifié aussi leur musique. Mais nous, on est arrivé avec quelque chose d'encore plus péchu, d'encore plus moderne, et c'est ce qu'a fait le succès de V. Oui.
Curieux breton que celui de EV.
En fait, c'est un groupe celto-finnois. Et donc là, le morceau qu'on vient d'écouter, c'était en finnois.
Mais quand vous fouillez dans les bacs, chez Terrones par exemple, à Feuze Music, il y avait un rayon celtique, il y avait un rayon par genre, ou bien on pouvait passer aisément d'un disque à l'autre?
Non, à l'époque, il y avait beaucoup moins de genres et de types de musique, donc c'était rock, jazz ou variété, point barre. Par contre, il y avait un rayon cassette, parce que les groupes nantais pouvaient aller chez Noël Terrones, mettre leurs cassettes, leurs démos souvent, en vente. Donc les groupes nantais avaient une vitrine chez Noël Terrones pour vendre leurs cassettes ou leurs premiers disques.
Alors visibilité, diversité, arrivée de Lolo, contemporain de bien d'autres qui ont duré plus longtemps... Et le rock, ça devient un objet politique. D'ailleurs, en 1983, élection municipale, la culture devient un objet politique. Les gouvernements nouvellement nommés hésitent toujours devant les élections intermédiaires. Le pouvoir de gauche de 1981 mord la poussière dans beaucoup de municipalités, et notamment à Nantes, où est élu Michel Chauty. Alors, il a des idées fixes. Le tram, il n'aime pas. Et la culture, ça doit prendre de la hauteur, dit Michel Chauty, qu'on va surnommer le sécateur maire, parce qu'il interdit un spectacle de la compagnie La Chamaille. Évidemment, ça s'appelait Les Bas-Ventres. Et puis, qu'il veut déboulonner Jean Blaise, qui commence à jouer un rôle important à Nantes, et promouvoir une maison de la culture de son choix, celle dite de la Loire-Atlantique, soutenue par le Conseil Général.
La culture, ce sont des manifestations très diverses qui ont pour but d'élever les hommes, de leur permettre de mieux communiquer entre eux, de mieux se comprendre et aussi de s'orienter tous vers des sommets un peu plus hauts que la réalité quotidienne.
Pourquoi vous avez décidé, par exemple, de ne plus subventionner la Maison de la Culture ?
Le problème de la Maison de la Culture est un problème très particulier. Nous avions affaire à une affaire totalement manipulée sur le plan politique, en particulier par quelques personnes du monde communiste, et c'est leur droit de le faire, mais nous, notre droit était de ne pas se laisser faire.
Oh, la Maison de la Culture, et maintenant la Chamaille se fait ceinture. Ton mandat pour nous, c'est du précieux.
Ton mandat pour nous, c'est du vrai cyanure. Ainsi chante le milieu culturel. Et bien alors, du côté du rock, eh bien, s'organise un grand concert dans les rues auquel vous avez assisté.
J'étais dans le public, oui, tout à fait. Ouais.
Rock Against Chauty. Et à côté, aux aguets, Jean-Marc Ayrault, le jeune député maire d'une commune proche, Saint-Herblain, qui va prendre la municipalité de Nantes en 1989, et qui lui avait déjà expérimenté à Saint-Herblain une alliance avec le milieu rock dont témoigne Manou.
nous, Nantes, on était un petit peu à la ramasse. Alors, c'était pas notre faute à nous, les musiciens, on n'était pas plus mauvais que les autres. C'est qu'il n'y avait pas de politique culturelle à Nantes. Enfin, culturelle, il y en avait forcément une, mais on va dire pas rock'n'roll, quoi. Et c'est quand Jean-Marc Ayrault est arrivé, tout simplement, qui là, il s'est passé plein de choses. Et qu'il l'a, il l'a voulu parce qu'il nous a reçus dans, pour sa première campagne, pour son premier mandat. Il a reçu toute cette culture-là. Donc, il y avait les dessinateurs de BD, des graphistes, et des musiciens et des artistes rock'n'roll. Puis, il a dit, moi, je vais faire en sorte que Nantes se réveille, que Nantes bouge, qu'il se passe quelque chose. Donc, forcément, il appelait au vote pour dire, j'ai besoin de vos votes. Et ça a fonctionné.
Alors que Chauty soit resté dans les mémoires comme le sécateur maire, ça n'étonne pas, mais que Jean-Marc Ayrault, dont on a vu les qualités ensuite dans ses mandats nationaux, ait pu passer pour un maire rock'n'roll, ça, ça étonne davantage. Enfin, je veux dire, à Paris.
Oui, oui, ça peut étonner, mais c'est vrai qu'il a compris ce que les attentes. Il a compris qu'il fallait des locaux pour répéter. Il a compris ce que c'était qu'une salle pour faire de la musique rock, et qu'une salle pour faire de la musique rock, c'est une salle qui est préparée et étudiée pour faire du rock. Donc oui, il était proche des rockers nantais. Et puis, on l'a vu entrer à l'Olympique, à l'époque de l'Olympique, ou à Astérolux régulièrement.
Qu'est-ce que c'est l'Olympique ?
L'Olympique, c'est l'ancien Majestic, un ancien cinéma. Ça a été transformé d'abord par une association, mais ensuite repris par la ville de Nantes et par Jean-Marc Ayrault pour faire ce qui est devenu notre temple du rock à Nantes pendant de nombreuses années, jusqu'à il y a 6 ou 7 ans où Stéréolux a pris le relais sur l'île de Nantes.
Mais vous attendez des dispositifs de salles échelonnées ?
On attend des salles de toute taille, parce que le rock, c'est pas que des grandes salles, il faut aussi des petites salles. Mais on attend plus que ça, et en fait, on va avoir plus que ce qu'on attendait parfois même, puisqu'en fait, il y a Trampolino qui va être mis en place, qui est... À l'époque, on dit que c'est la boîte à outils du musicien, c'est-à-dire que c'est des locaux de répétition, mais c'est aussi de l'accompagnement. Et ça, c'est très, très, très nouveau. C'est-à-dire qu'on va accompagner les musiciens pour leur apprendre, non pas à jouer, c'est à eux de, mais leur apprendre à non plus à composer, mais à monter une tournée, à vendre ses disques, à faire du management, etc. Et ça, c'est très nouveau. Faut imaginer que ça a plus d'une trentaine d'années, qu'il y a encore des villes qui viennent voir Trampolino à Nantes pour leur dire, vous pourriez pas nous être consultants et nous aider à faire ce que vous avez fait à Nantes il y a 35 ans.
Mais vous avez aussi été aidé par le climat festif. La culture est une fête constante à Nantes, à cette époque.
Oui,
les années 90,
et puis on en
Royal de
voilà,
Luxe,
exactement,
etc.
Voilà, et on en profite, c'est-à-dire que je pense qu'il y a eu les Allumés à Nantes, avec Royal de Luxe notamment, et je pense que ça a été la première chose
c'est le retour de Jean Blaise.
Oui, tout à fait.
Je citais tout à l'heure.
Exactement,
oui.
Et en fait, on a appris aux Nantais à sortir. Parce qu'en fait, avant, on appelait Nantes la Belle Endormie, il n'y avait rien, et puis il n'y avait pas de culture un petit peu...
Vous n'allez pas nous faire le truc de la bourgeoisie une deuxième fois, Lolo.
Voilà. Oui, et puis tout d'un coup, on a appris aux Nantais à sortir, et puis des lieux sont mis en place, et puis des musiciens ont commencé à fleurir un petit peu partout.
Alors Manou, tiens, vous nous parliez de Manou et de son groupe.
Elmer Footbeat.
Alors
Manou, c'est le début d'une grande histoire nantaise, parce que les Elmer Footbeat, c'est un des premiers groupes, on est dans les années 90. Faut savoir que depuis 10 ans, on est un peu mal parce qu'on a les Rennais à côté qu'on aime beaucoup. Moi, je suis aux Beaux-Arts à l'époque, et qu'est-ce que je fais ? On s'entend des Beaux-Arts avec les copains, on prend notre voiture, et puis on va à Rennes 2 à 3 soirs par semaine pour voir des concerts, pour écouter de la musique. À Nantes, on retrouve rien. Et puis tout d'un coup, il y a un groupe nantais, il y a une success story nantaise, et ça, c'est très nouveau. On voit tout d'un coup, sur les frontons nationaux, un groupe nantais, les Elmer Footbeat. C'est génial, ils vont vendre énormément de disques, en plus d'une manière très indépendante. Et en fait, ils vont apprendre plein de choses aux autres nantais. Ils ont été les premiers en France à comprendre l'importance du merchandising et à faire plein de choses. Ils gagnaient plus avec le merchandising pendant les concerts qu'avec le cachet du concert.
Oui, mais je vous entends parler de management, de merchandising. Il faut citer la marque Kangourou à propos d'Elmer, parce que ça se termine toujours en slip Kangourou.
C'est vrai, ça se finit en slip Kangourou, et tout à fait.
Good. Daniela.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Oh là, ma pauvre dame, m'en parlez pas. Depuis qu'on est dans un musée, on se sent pupisser. Oh là 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 là. Ah, moi, ça y est, j'ai atteint mes objectifs de gloire et de notoriété.
L'homme en slip kangourou, toujours. Manou, un des héros de l'exposition Rock, une histoire nantaise, dont Laurent Charliot, ici présent, a été l'animateur. Comment est-ce qu'on fait une exposition de rock avec des dispositifs particuliers?
C'est une exposition qui est très complète et qui est très scénographiée. Il y a vraiment des périodes rooms, c'est-à-dire qu'il y a de la construction. On pouvait le faire parce que l'exposition dure 1 an et 7 mois, donc ça permettait de faire du dur et de faire vraiment des pièces. On a quand même reconstitué un disquaire entier.
Donc on peut se mettre devant une platine avec son cendrier à côté, on s'assoit confortablement et on écoute.
C'est rigolo ce que vous dites, parce que le seul reproche qu'on m'a fait à l'exposition, c'est ça, c'est de dire il y a que l'odeur de cigarette qui manque dans cette exposition. Notamment, il y a le local de Répé des Elmer, et il manque l'odeur de cigarette.
Mais vous avez parlé de compartiment fumeur, quand même.
Bien sûr.
C'est un groupe.
C'est un groupe. On parle de compartiment fumeur et de sans filtre, aussi.
Il n'y a pas de filtre dans le milieu rock nantais. C'est-à-dire qu'il y a une porosité. On peut passer d'un petit lieu à un autre.
Oui.
Vous n'avez pas l'air convaincu.
Si, je suis convaincu.
C'est pourtant ce que vous expliquez dans l'argumentaire de l'exposition.
Voilà, non, j'en suis convaincu, mais en fait, il y a une porosité à tous les niveaux. C'est-à-dire que Manou le disait en introduction, je pense que la porosité, elle existe par les musiciens d'abord, parce que les Elmer, on pourrait dire c'est du rock franchouillard, etc. C'est pas très sérieux. Et les gens qui font de la musique un petit peu intellectuelle pourraient dire, moi je vais pas me mélanger avec ces gens-là. Tout le monde se connaît et tout le monde s'apprécie, quel que soit le style de musique. Et c'est grâce à ça. La porosité, elle est venue par les magasins de disques, ou qui fédéraient les musiciens. Elle est venue par les magasins d'instruments de musique. Ça, c'est très important. Parce que tout le monde se retrouvait chez Michno Musique. Et là, eh bien, les musiciens, qu'ils fassent du jazz, qu'ils fassent du rock, qu'ils fassent du reggae, eh bien, ils étaient tous à 18h à attendre que Jean ouvre ses bouteilles du Muscadet. Parce que c'était un rituel. Et ça, c'est vachement important. Quand on voit Philippe Catherine, ses amis musiciens, c'est les jazzman nantais. Il se mélange avec eux parce qu'il a eu l'habitude de... Tout le monde se mélange à Nantes. Et ça, c'est vraiment une des particularités de la...
Il vient d'où, lui, Philippe Catherine?
Alors, Philippe, il vient de Vendée.
Ah,
il vient de Vendée.
Comme Little Rabbit qu'on va écouter, un groupe qui vient de la Gaubretière.
Pas de quartier pour les riches.
Pas de riches dans le quartier. Moi, ça fait du bien.
Moi, je dis pas non, mais je dis pas oui. Une pleine coupe
de vodka.
Wow.
Un martini on the rocks.
Un zeste de
gin.
Un zeste de
jet soda.
Dans un grand
verre de viandox.
Comme deux
dindons
sur le canapé.
Moi, j'ai cette mine dindons.
Pepsi.
Ecola.
Voilà.
Golden Corgi.
Plus.
Deux glaçons.
Une rondelle de citron. Dans un grand verre.
Magique.
Secours.
Vous le citez d'ailleurs d'un long article des Inrecuptibles avec des photos de paysages mouillés, parce que les Inrecuptibles, ça vous a un côté parisien, je dirais même versaillais, et là il découvrait un rock rural vendéen.
Oui, tout à fait. Ils ont fait la couverture des Inrecs. Ouais. Elle est magnifique d'ailleurs, cette couverture toute rose. Et oui. Alors, il y a un lien entre la Vendée et les Nantais qui est important. La Vendée, c'est assez rural, il n'y a pas de très grande ville, et donc inévitablement, les musiciens vendéens, à un moment ou à un autre, faut qu'ils fassent leurs études, ils viennent plutôt les faire à Nantes ou à Rennes. Et donc on a récupéré comme ça, et les Rabbits, et Philippe Catherine, et plus récemment les Von Parias, par exemple. Donc des groupes qui sont Nantais d'adoption, parce que c'est là où ils vont rencontrer d'autres étudiants, et c'est là où ils vont faire leur premier concert, leur premier disque, et puis parfois repartir et revenir.
Mais vous-même, vous œuvrez en Vendée, TV Vendée, une chronique, une émission de rock, une imprimerie en Vendée. Vous avez vu Ouest France, Françoise Nyssen, il y a peu de jours, déclarait « Il y a des déserts culturels en France », et alors elle prenait quelques exemples, les Vosges, et calculait le nombre d'équipements hein, par nombre d'habitants, le Loiret, l'Eure et la Vendée.
Oui, la Vendée, oui.
Alors, vous avez une explication,
alors, avant, je voudrais juste dire que ça fait ombre aux Fusions, quand même, qui est une salle de musique actuelle qui est extraordinaire, qui a une super programmation avec peu de moyens et qui est vraiment une belle programmation. Mais c'est vrai, bah, parce que c'est beaucoup de petites villes et puis souvent.
Et puis, vous pourriez peut-être reprendre un argumentaire politique comme celui que vous aviez en 1983.
Oui, oui, on a des directions politiques qui sont pas très culture rock, on peut le dire comme ça, pour être politiquement correct.
Vous avez consacré deux albums, il y a quelques années, qui s'appelaient Rock et Roca, à raconter le développement ou les échecs des musiques amplifiées en Bretagne. Alors si après le management, le merchandising, vous faisiez un peu de benchmarking, des avantages comparés des différentes villes, de ouais, Bretagne, c'est... et la course, la concurrence entre Rennes et Nantes, ouais, où ça en est.
Ouais, tout à fait. Alors, on avait ce livre, j'ai pas écrit tout seul, et je l'avais écrit notamment avec Franck Darcel, donc on avait enterré l'âge de guerre, puisqu'on parce avait fait un Rennais et un Nantais.
C'est Marquis de Sade.
Marquis de Sade, ouais, tout à fait. Mais, non, il y a toujours une rivalité entre les deux villes. Soit c'est sur la pelouse des stades de foot, soit c'est sur le terrain de la musique. Et c'est vrai que dans les années 80, je le disais tout à l'heure, on était loin, loin derrière parce qu'on voyait arriver les Marquis de Sade, les Nus, tous les groupes rennais, les Mojart et compagnie. Par contre, là, je crois qu'aujourd'hui, on a pris notre belle revanche depuis les années 90, parce que autant Nantes était la belle endormie en 80, mais à partir du déclic des Elmer, Nantes, c'est Nantes l'effervescente, c'est-à-dire qu'il se passe pas depuis le début des années 90, il se passe pas une année sans qu'une nouvelle pépite nantaise, apparaisse et au premier plan national, parce que derrière, ça va défiler très vite. On va avoir les Dominicains, on va avoir les Rabbits, on va avoir Philippe Catherine, on va avoir Jeanne Chéral, on va avoir Françoise Breu. Plus récemment, on va avoir les C2C, les Elephants, les Pony Pony Run Run. Ou Christine and the Queen ou Madeon. Donc il y a toujours, c'est-à-dire Manu le disait aussi en introduction, je crois que la force de Nantes, c'est ça, c'est il y a une régénérescence permanente et c'est formidable.
Oui, mais en matière de festival quand même, je veux pas dire Rennes c'est peut-être
ah oui,
mieux.
Oui, je suis d'accord, oui, tout à fait, et je suis un inconditionnel du festival rennais, c'est clair. Tout à fait, les transmusicales.
Et vous-même, vous n'avez pas créé un festival ou animé un festival ?
Si, je suis avec Manu, on a fêté les 30 ans des Rockeurs du Cœur, donc je suis un des membres très actifs. Les Rockeurs du Cœur, ou un festival caritatif, Astérolux, chaque année, où on reçoit à peu près 2000-2500 personnes et 2500 jouets qu'on redistribue aux enfants défavorisés de la région.
Il y a des labels à Nantes ? On parlait de Scopitone, le studio de films publicitaires qui fabriquait des disques il y a de ça un demi-siècle.
Oui, oui, il y a quelques labels qui regroupent les familles musicales. Je pense notamment, il y a le label Futur où on retrouve notamment les Minitel Rose, Pégase, c'est toute la bande avec les Rome for Pauline, son chanteur romain allemand, Len Parrott.
Que voici. L'allemand, Rome for Pauline, c'est aussi un chanteur solo, un peu androgyne, Len Parrott, et puis il appartient à Pégase, que vous citiez tout à l'heure, Laurent Charliot. Merci d'être venu de Vendée. Merci à Franck Olivard d'être allé jusqu'à Nantes pour ses reportages. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, avec la réalisation Audrey Ripouille, la technique Gilles Gaillard.